Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 7 nouveautés. Les Barbares, Ni Chaîne Ni Maître, Les Graines du Figuier Sauvage, Ma Vie Ma Gueule, Speak No Evil, Jour de Colère, et un film pour les tout-petits, Billy le Hamster Cowboy. Autant vous dire que nous n'avons pas vu le film qu'il fallait voir cette semaine. C'est certainement Les Graines du Figuier Sauvage, mais très long, difficile à caser, donc ouais. On ne l'a pas vu. Mais on a vu quand même quelques autres. Alors, pour ce qui est de la programmation musicale, c'est surtout dans Speak No Evil que je suis allé piocher. Alors, on va voir si Pierre reconnaît ce premier titre. Je pense que oui, parce que c'est quand même quelque chose qui est très connu. On l'entend à 2-3 reprises dans le film, et notamment sur le générique de fin, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Allez, c'est parti.
Ah. Oui, je connais, mais je me rappelle plus du titre.
C'est les Bangles,
Eternal
Flame.
Oui.
Yeah.
The Bengals Eternal Flame, et c'est un titre que l'on entend à plusieurs reprises dans le film Speak No Evil. Mais cette semaine, nous la commençons par le film Les Barbares. Les Barbares, c'est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film Julie Delpy, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 51. En commençant sa carrière, elle a produit quelques courts-métrages, elle a réalisé quelques courts-métrages, et puis ensuite, elle passe au long, en 2001, Looking for Jimmy, avec elle-même, d'ailleurs, elle joue dans tous ses films, hein. 2007, Two Days in Paris, avec Adam Goldberg. 2009, La Comtesse, un film d'horreur, avec Daniel Brühl. 2011, Le Skylab, avec Noémie Volsky et Bernadette Lafont. 2012, Two Days in New York, avec Chris Rock. 2015, Lolo, avec Vincent Lacoste et Danny Boone. 2021, My Zoé, avec elle-même, toujours, et Richard Armitage. Et puis, on l'a vu, parce que je crois qu'elle les a aussi réalisés, des épisodes de la série On the Verge sur Canal+. Pierre va nous en dire plus sur Les Barbares.
Durée 1h41, avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Le synopsis: à Pimpon, l'harmonie règne. Parmi les habitants, il y a Joël, l'institutrice donneuse de leçons, Anne, la propriétaire de la supérette portée sur l'apéro, Hervé, le plombier alsacien plus breton que les bretons, ou encore Johnny, le garde champêtre fan de Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil de réfugiés ukrainiens, sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens, mais syriens. Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l'arrivée de leur nouveau voisin de très bon œil. Alors, au bout du compte, c'est qui les barbares? La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier. Julie Delpy trouve un équilibre parfait entre humour et gravité. Le Figaro, avec Olivier Delcroix, une comédie mordante. Le Monde, dans la grande tradition moliéresque, les barbares se révèlent une comédie de caractère. Les personnages y commandent l'intrigue plutôt qu'ils n'en émanent. C'est dire l'importance d'un casting qui se révèle ici parfaitement mesuré. Les Échos, avec Olivier De Bruyne, une comédie corrosive et tragiquement drôle. Télé 7 jours, avec Isabelle Magnier, joyeusement foutraque, prévisible dans ses rebondissements, mais ultra rafraîchissante. La satire explore la peur de l'autre, dégomme les préjugés et la xénophobie sans faire la leçon. Et puis il y en a quand même pas mal qui n'ont pas aimé, ça me rassure. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion. Julie Delpy reste dans les clous, divertissant sans surprendre, au fil d'un film inégal qui peut toutefois compter sur ses acteurs talentueux. Là, je suis d'accord quand même. Ouest France, par Pascal Vergerot, une comédie sur le vivre ensemble qui navigue entre causticité et bon sentiment sans jamais réellement trouver son ton, mais l'interprétation est excellente. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle, l'actrice et réalisatrice Julie Delpy se moque de nos solidarités à géométrie variable dans un film qui aurait gagné à plus de subtilité. Libération, avec Clément Colliot, malgré quelques scènes touchantes, cette comédie sur le racisme de villageois bretons face à une famille d'immigrés syriens verse dans la caricature de la ruralité. Et enfin, Les Inoccupables, avec Théo Ribeton. Croyant décrypter les ressorts de la xénophobie rurale, Julie Delpy livre une caricature déconnectée qui tombe très mal.
Voilà, ça s'appelle Les Barbares, c'est proposé par le Pâté Quinconce, c'est le Méga CGR. Donc c'est un film où alternent les moments de pure comédie, surtout au début, et d'autres plus dramatiques, et où le ton alterne entre le féroce, le doux amer, et carrément le lénifiant, gnangnang, plein de bons sentiments. Et donc, il est donc question ici de l'arrivée d'une famille de réfugiés syriens dans une petite commune de la Bretagne profonde. Cette commune attendait des Ukrainiens, et là, c'est les Syriens qui débarquent. Alors, forcément, les réactions de la population sont fort contrastées suivant les points de vue. Alors, il y a le maire, par exemple, le maire qui est maladroit et plein d'empathie, plein de bienveillance. L'institutrice, un peu tendance woke. Le plombier raciste, sa femme Nunuche, entièrement sous sa coupe. Le couple d'épiciers, lui plutôt méfiant, elle, gentiment alcoolique. La tenancière de la crêperie locale. Le policier communal, brave type, fan de Johnny et quelques autres que j'oublie. Julie Delpy, dans un premier temps, s'attache à travers le reportage d'une équipe de télévision régionale chargée de couvrir l'arrivée des Syriens, se charge donc de brosser les portraits de tout ce petit monde, y compris la famille de réfugiés et son histoire que l'on va découvrir dramatique. C'est la partie comédie, plutôt réussie de cette histoire, voilà, bon, et puis bon, c'est une histoire qui vise à dénoncer les préjugés, le racisme ordinaire, l'humour est parfois grinçant, et puis le film s'enlise, le film s'égare, ne sachant plus trop quelle direction prendre, et finit même tomber dans le prévisible, les bons sentiments, comme je l'ai déjà dit, le consensuel, de façon, j'ai trouvé, moi, trop artificielle. Donc c'est une ode qui vise à dénoncer le racisme ordinaire, résultat de l'ignorance, qui vise à parler de solidarité, de tolérance. Bon, j'ai trouvé que c'est convenu. Bon, c'est inattaquable, évidemment, hein, qui va être contre, mais bien sûr. Donc mon jugement est finalement assez mitigé. Les intentions de Julie Delpy sont louables. La satire vise par moments juste. Le traitement n'est pas toujours très convaincant, mais c'est vrai que le casting est excellent. Dans ce casting émerge Laurent Lafitte. Et puis, il y a aussi des dialogues qui sont parfois assez corrosifs. Alors, Pierre.
Alors, bien que ce film soit, selon moi, plutôt médiocre, je me suis quand même surpris à rire à plusieurs reprises. Ceci dû à quelques réparties salées, du genre, par exemple, je vais citer « Je ne comprends rien à ce que vous dites, je ne parle pas le Macron, moi ».
Oui, il y a ça dans le film. Oui.
À part ça, je trouve que certains personnages font trop cliché. Par exemple, l'artisan plombier très caricaturé ultra-droite, raciste, un brin facho, ou bien, à l'opposé, l'institutrice ultra-gauchiste, un brin idéaliste. Alors, en ce qui concerne le racisme présent dans ce film, que penser de sa définition, toujours dans le film ? Genre, le racisme naît de la peur de l'autre, de la peur qu'on nous pique nos femmes. Alors là, j'ai un petit peu halluciné quand même. C'est pas vraiment ça le racisme. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah non, c'est pas,
non, c'est
ça,
pas tout à fait
mais
ça.
Mais bon, ça c'est dans la bouche d'un enfant, non, il me semble ? C'est dans, le, dans la, la réplique,
ah, non ? Non, c'est dans un adulte.
Ah d'accord,
ok. Oui. Bref, j'ai trouvé cette histoire, cette comédie un peu trop lourdaude dans l'ensemble.
Voilà, donc ça s'appelle Les Barbares. C'est proposé par le méga CGR et le Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce toujours, eh bien, ni chaîne ni maître. Ni chaîne ni maître, c'est un film de Simon Moutaïrou, réalisateur et scénariste français. C'est son premier long-métrage. Il est connu comme scénariste de films comme Goliath ou Boîte Noire, par exemple. Pierre, tu peux nous en dire davantage sur Ni chaîne ni maître ?
Oui, durée 1h38, avec Ibrahima Mbaye, Thié, Camille Cotin et Anna Tiandoum.
Il y a aussi Benoît Magimel dans un petit
oui,
rôle.
Oui, mais il n'est pas cité là, sur ma fiche. Le synopsis, 1759, Île-de-France, qui s'appelle actuellement l'île Maurice, Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l'enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron, un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial. La revue de presse, Ouest France avec un Augier, un premier long métrage au souffle épique. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle, un premier film ambitieux et puissant. Le Parisien avec Catherine Ball. L'œuvre est portée par deux acteurs formidables et une Camille Cotin étonnante en redoutable chasseuse d'esclaves. Ceux qui ont moins aimé maintenant. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpech. Malgré un scénario minimaliste et manichéen, le drame puise sa force dans sa mise en scène sensorielle pour dénoncer le racisme et la déshumanisation. Le Monde, tourné comme un survival, ni chaîne ni maître tient en haleine le spectateur. Mais la rapidité de la mise en scène ne permet pas, hélas, de creuser les personnages, en particulier ceux qu'incarnent Magimel et Cotin, qui semblent être juste de passage. Le film réussit davantage à mettre en exergue les doutes qui taraudent une partie des jeunes blancs en rupture avec leurs aînés. Libération avec Clément Colliot. Si, à voir la totalité du film, la balance entre devoir de mémoire et grand spectacle achoppe parfois, Simon Moutaïrou sait où se trouve le cœur du projet, rendre justice au regard des opprimés. Et enfin, première, avec Damien Leblanc, le recours constant au code du survival et la volonté de charger ce tragique récit d'un mysticisme magique et d'une esthétique fantastique atténue étrangement la portée des personnages et limite le réalisme de ce témoignage historique pourtant précieux.
Voilà, ça s'appelle Ni chaîne ni maître, c'est proposé uniquement au Pâté Quinconce. C'est un film sur l'esclavage à l'île Maurice, qui était alors une possession française. On est en 1759 et le film évoque la fuite de la plantation où ils sont exploités de Mati et Massama. Massama, c'est le père de Mati, qui de fait deviennent ce qu'on appelle des marrons, c'est-à-dire des esclaves en fuite. La première demi-heure, de loin la plus intéressante, traite donc de la situation des esclaves dans la plantation de canne à sucre de l'île, aux mains d'un colon blanc joué par Benoît Magimel. Le travail éreintant, les conditions de vie extrêmes sont décrites, les châtiments cruels pour les récalcitrants, mais aussi, on voit également la vie des maîtres, tout puissants, peu perméables aux idées humanistes des Lumières, qui commencent pourtant à se faire jour, et qui influencent les jeunes générations, en tous les cas, les jeunes générations de colons qui sont évoquées dans le film. Puis, à partir de l'évasion de Mati et de son père, le film devient un film de traque. Une traque menée par Madame la Victoire et ses fils, qui sont des gens chargés de traquer les esclaves en fuite, et les traquer de façon impitoyable. Donc, leur travail, ça consiste à traquer les fugitifs dans une nature hostile. En même temps que le film de traque, il devient une sorte de survival, où là aussi, avec une dimension mystique par moment, empreinte de mythologie africaine, parce que il y a les traqués qui sont en mode survival, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils survivent dans cette nature hostile. Donc, et là, on doit dire qu'à part de belles images, c'est pas vraiment, vraiment passionnant. Et le film retrouve vraiment un certain intérêt qu'avec sa conclusion dans les 5 dernières minutes. Alors la conclusion, on ne la révélera pas, bien entendu, si ce n'est pour dire qu'elle sera tragique et très loin d'un happy end bêtement optimiste. Heureusement, on y a échappé. Alors on pouvait espérer un film beaucoup plus fort, tel qu'il est. Il est un petit peu décevant, je trouve, bien que je reconnaisse les ambitions du réalisateur. De la belle image, certes, mais ça ne suffit pas à me satisfaire. Donc là aussi, très mitigé, j'aurais du mal à vous recommander d'aller voir Ni chaîne ni maître. Voilà, petite pause musicale. C'est un titre que l'on entend dans le film Speak No Evil. Alors c'est un titre que vous connaissez parce qu'il a déjà servi dans d'autres films, il me semble. Ça s'appelle Redneck Cotton Eye Joe. C'est sur Radio Alpaz en 7.3 FM Le Mans.
I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? did you come from Cotton Eye Joe?
Rednecks, j'ai dit Redneck tout à l'heure, c'est Rednecks, Cotton Eye Joe, et c'est un titre que l'on entend, et il y a son importance d'ailleurs dans le film Speak No Evil. Les graines du figuier sauvage, c'est le film qui est proposé par les cinéastes, durée 2h46, son réalisateur Mohammad Rasoulov, réalisateur, scénariste, producteur iranien, qui a à son actif en 2002 Twilight, un documentaire inédit, en France en tous les cas, 2005 La vie sur l'eau, 2011 Au revoir, 2013 Un homme intègre, et 2020, le film avait obtenu l'Ours d'or, Le diable n'existe pas, et puis il a aussi des film inédit en France, réalisé par Mohammad Rasoulov. Le film 2h46 proposé par les cinéastes. Imam vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. Dépassé par l'ampleur des événements, il se confronte à l'absurdité d'un système et à ses injustices, mais décide de s'y conformer. À la maison, ses deux filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme, Najmé, tente de ménager les deux camps. La paranoïa envahit Imam lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Michael Mélinard, à propos de ce film, dans l'humanité, à la fois drame, thriller et film d'apprentissage, ce chef-d'œuvre de Mohammad Rasoulov a été récompensé par un prix spécial du jury à Cannes cette année. Barbara Théâtre dans le Journal du Dimanche parle d'une leçon de courage et de résistance. Florence Colombani dans Le Point, un huis clos familial qui raconte tout un pays. Adrien Gombeau, Les Échos, hommage au courage d'un peuple, exercice de mise en scène virtuose. Les graines du figuier sauvage est un film magistral. C'est bien ce que pense Pascal Vergerot, puisqu'elle le déclare dans Ouest France, un film magistral. Jacques Maurice, Télérama, un thriller d'une force politique inouïe. Delphine Minoui dans Le Figaro, un vibrant hommage aux femmes iraniennes. Fabrice Leclerc dans Paris Match, il y a des films nécessaires, ce qu'il faut voir pour savoir et comprendre. J'aurais pu continuer comme ça longtemps. Le seul qui a un tout petit bémol, c'est Aurélien Allain dans Cinématiseur. Si sur près de 3 heures, la démonstration tourne en rond et perd en force, la rage engagée de Mohammad Rasoulov l'emporte. Vous voyez, ce n'est pas un bémol qui est bien appuyé. Donc, c'est un film que nous n'avons pas vu. Moi, je le regrette, hein, mais 2h46, je n'aurais pas pu voir d'autres films dans la journée. Et c'est proposé 2 séances par jour aux cinéastes.
Je ne doute pas de la qualité du film, mais la durée, c'est lourd pour moi.
Moi, ce n'est pas que ce soit lourd, mais c'est que ça m'empêche d'en voir d'autres.
Ah oui, c'est voilà. Ça. Oui.
Bien. Ma vie, ma gueule. Ben oui, j'aurais préféré certainement voir Les graines du figuier sauvage. Ma vie, ma gueule, c'est un film proposé aux cinéastes. Un film de la réalisatrice Sophie Villière. Elle est actrice, réalisatrice, scénariste. Elle est née en 64 et elle est morte en 2023. Elle a fait ses études à la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma, des courts-métrages et puis ensuite une série de longs-métrages qui ont pratiquement tous été proposés soit au ciné-poche à l'époque, soit au cinéaste aujourd'hui. 94, un film qui s'appelait Grande Petite avec Judith Godrèche et Hélène Filière. Hélène Filière, je crois que c'est la sœur de Sophie Filière, je ne suis pas sûr, je crois que c'est sa sœur. 2000, Aïe, c'est le titre du film, A-I-E, hein, avec André Lussolier. 2005, Gentil, avec Emmanuel DeVos et Lambert Wilson. 2009, Un chat, avec Chiara Mastroianni et Agathe Bonitzer. 2014, Arrête ou je continue, avec Emmanuel DeVos et Mathieu Malric. 2017, La Belle et la Bête, avec Sandrine Kiberlain et Agathe Bonitzer. Et aussi scénariste de films comme Garçon chiffon ou Sidonie au Japon. Pierre, tu peux nous en dire davantage sur Ma vie, ma gueule.
Durée 1h39 avec Agnès Jaoui, Angelina Warrett et Édouard Sulpice. Le synopsis, Barbery Bichette, qu'on appelle à son grand dame Barbie, a peut-être été belle, peut-être aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui, peut-être, mais aujourd'hui c'est noir, c'est violent, c'est absurde et ça la terrifie. Elle a 55 ans, peut-être 60, bientôt plus. C'était fatal, mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie en somme. La revue de presse, Les Inrecuptibles avec Bruno Deruisseau. Finalisé par les enfants de la réalisatrice, ce film est un miracle de poésie tragicomique et offre à Agnès Jaoui l'un de ses plus beaux rôles. Le Figaro avec Éric Neuhoff, un film tout en pudeur et en délicatesse. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion. S'il est question d'une dépression, l'autoportrait, qui n'élude pas la gravité du sujet, n'est en rien désespéré ou désespérant. se greffe à sa mélancolie un humour et une poésie qu'incarne une Aïès Jaoui remarquable de justesse. Le Parisien avec Renaud Barognan, un film testament très drôle, émouvant et magnifique. Ouest France avec Agnès Le Morvan, un moment de poésie. Télé 7 jours avec Isabelle Magné, l'ultime film de Sophie Filière disparu en juillet 2023 évoque la dépression avec une rare acuité mêlant légèreté et mélancolie. Télérama avec Samuel Douer, le récit flotte un peu. Certaines scènes, notamment dans la partie centrale, sont trop étirées, mais le subtil jeu sur les mots de Sophie Filière, son goût du non-sens très parlant, sont bien présents et souvent irrésistibles. Les Échos avec Olivier De Bruyne, Agnès Jaoui incarne une héroïne farfelue dans le film posthume de Sophie Filière. Sa prestation compense en partie les faiblesses de cette fiction extravagante. Et enfin La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle, Ma vie, ma gueule tisse un portrait douloureux d'une femme dépressive dans l'incapacité de s'écouter, de connaître ses désirs, de renouer avec ses élans vitaux. Le film juxtapose des vignettes, tantôt charmantes, tantôt pesantes, le plus souvent décousues, dont la confusion rend peut-être compte avec habileté de celle qui agite son héroïne.
Ça s'appelle « Ma vie, ma gueule », c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes. C'est le portrait donc d'une quinquagénaire en pleine dépression. Barbarie Bichette, dite Barbie, à 55 ans, vit seule, séparée de son mari et de ses deux grands-enfants, et elle déprime un max. Alors si le début du film passe encore avec cette succession de scénettes qui met aux prises donc Barbie avec son psy mutique, ses collègues de travail, sa fille ado avec qui la communication est minimale, son fils, sa sœur et quelques autres, dont une scène avec le vrai Philippe Catherine par exemple, eh bien on trouve alors à ce moment-là quelques traces d'humour et d'autodérision, hélas, bien vite. Le film s'assimile à un trou avec du vide autour, tant il ne s'y passe quasiment rien. Alors peut-être parce que je suis un affreux vieux mâle blanc hétéro, je n'ai pas été sensible à la détresse de cette femme, on en a quand même du mal à comprendre quelle est la source de son état, si ce n'est le problème qu'elle a avec son âge. Bon, Agnès Jaoui fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas grand-chose non plus à défendre. La poésie et la fantaisie voulue par moments par la réalisatrice tombent quand même bien à plat, si on est peu sensible, comme c'est mon cas, à la poésie. Et donc, petit à petit, un ennui incommensurable s'installe jusqu'à la fin d'un film dont on est content qu'il s'achève. Alors, les critiques ont beaucoup apprécié, mais je pense qu'une des raisons à cela est due au décès prématuré de la réalisatrice, qui jouissait d'une belle cote auprès de la profession et qui a eu une carrière qui se résume à des spectateurs dans 2-3 arrondissements parisiens, quoi, à peu près. Voilà, c'est dur. Hein.
Non, mais je vais être pareil, moi. Hein, j'ai pas du tout aimé. Alors donc, après le One Woman Show de Valeria Bruni Tedeschi dans Une vie rêvée, sorti au début de ce mois, film durant lequel j'étais sorti une demi-heure avant la fin, quand même.
Ah là, quand même.
Ah oui, quand même.
C'est rare.
Eh bien, voilà maintenant le One Woman Show d'Agnès Jaoui, qui interprète là le rôle quasi d'une quasi-folle, hein, parce qu'elle est vraiment complètement à l'ouest, comme on dit. Là encore, j'ai eu très envie de sortir, mais ma conscience professionnelle vis-à-vis de l'émission de ce jour m'a fait rester jusqu'au bout en somnolant d'un seul œil, comme les chiens. Alors, ce film a été présenté à Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, sans doute pour rendre hommage à la défunte réalisatrice, mais Cannes, est-ce toujours vraiment une référence ?
Oui.
On notera dans ce film de courtes apparitions de Philippe Catherine, vous savez, le nudiste des Jeux Olympiques.
Oui, c'est lui.
Alors, vous avez compris, je n'ai pas du tout aimé ce film.
Eh bien, on est donc deux. Hein,
oui, voilà, on est d'accord. Hein,
oui, absolument. Bon, eh bien, on passe à un titre que l'on entend toujours dans Speak No Evil, dont on parlera juste après. C'est Def Leppard, le groupe, et le titre, c'est Animal, ou Animal, puisque c'est anglais. We are a hungry world. Def Leppard, Animal. Et c'est un truc que l'on entend dans Speak No Evil. Speak No Evil, ben justement, c'est le moment d'en parler. C'est un film de James Watkins, acteur, réalisateur, scénariste britannique né en 73. Il avait réalisé en 2008 un bon petit film d'horreur, Eden Lake, avec Michael Fassbender et Kelly Reilly. 2012, La Dame en Noir, là aussi c'est un film d'horreur, avec Daniel Radcliffe. Et 2016, Bastille Day, ça c'était un film d'action avec Idriss Elba, Charlotte Lebon. Il a aussi à son actif des épisodes de séries. Et son film est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Et au Colisée et au Pathé Quinconce, il y a de temps en temps une VO, il faut aller la choper. Allez Pierre, dis-nous en plus sur Speak No Evil.
Durée 1h50, avertissement, ce film est interdit aux moins de 12 ans. Avec James McAvoy, Mackenzie Davis et Aisling Franzosi. Le synopsis, une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s'annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar. La revue de presse, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech. Coup de cœur pour ce thriller paranoïaque et vénéneux qui bascule progressivement dans l'horreur. Mad Movies avec Gilles Esposito. Ce nouveau Speak No Evil s'impose comme le premier thriller bien efficace de la saison 2024-2025. Le Monde, l'intérêt réel du film de James Watkins réside dans la manière dont les personnages sont adroitement esquissés, dont leur psychologie est discrètement reliée à des habitudes de classe, dont leur identité sociale détermine une série de comportements. Et enfin Première avec Frédéric Foubert, James Watkins excelle à créer un climat d'angoisse diffuse et de menaces larvées, bientôt franchement suffocant, bien aidé dans son entreprise par un McAvoy déchaîné en lads chaleureux, toujours à deux doigts d'exploser et de révéler sa nature de brute épaisse. Son passage chez Shyamalan dans Split et Glace a clairement laissé des traces chez l'acteur.
Voilà, ça s'appelle Speak No Evil. C'est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Dans ces deux derniers cinémas, il y a des séances en VO. Donc, Ben, Louise et leur petite fille et son doudou, alors le doudou, j'en parle parce qu'il a son importance dans le film, sont un couple d'Américains expatriés à Londres et au cours de vacances en Italie, ils font la connaissance d'un autre couple, un couple d'Anglais et de leur enfant muet à cause d'une maladie rare, est-il expliqué. Et ben, ces deux couples sympathisent très vite, si bien que rentrés en Angleterre, eh bien, Ben et Louise acceptent l'invitation à venir passer un week-end dans la maison de ce deuxième couple, maison qui se situe dans la campagne anglaise. Alors, passé les retrouvailles, ben, très vite, un malaise s'installe à cause de petits détails, tout petits détails. Alors, c'est pas vraiment un film d'horreur, comme il semble être vendu, à part peut-être la dernière demi-heure, mais la dernière demi-heure, c'est pas vraiment complètement d'horreur. C'est brutal, mais c'est pas vraiment de l'horreur. C'est plutôt un film à la tension psychologique grandissante à cause des différences entre les deux couples, des différences qui se font jour petit à petit. Le couple américain, un peu coincé, surprotecteur envers son enfant, et où manifestement, ben, tout ne se passe pas si bien que ça, pas entre eux. Et puis, d'un autre côté, bien, le couple anglais, un couple anglais plus libre, plus libéré, on va dire, plus décontracté, mais malgré tout, un côté très macho, très viril du mari envers sa femme et son enfant. Voilà, donc la tension monte, crescendo, et c'est plutôt bien fichu parce que le réalisateur a un vrai savoir-faire pour distiller l'inquiétude sans avoir recours aux grosses ficelles habituelles. Il n'y a pas de jumpscare facile ici, non, juste une série de petits détails qui, additionnés les uns aux autres, provoquent un malaise, une menace grandissante. Et James McAvoy est excellente. Alors, dans un registre tour à tour charmeur, charmant, puis ambigu et de plus en plus inquiétant. Donc voilà, vraiment un bon suspense. C'est pour moi, c'est même le film de la semaine. Avec même un petit peu de fond, puisqu'il y a question en filigrane de l'opposition entre citadins, tendance écolo-woke et gens de la campagne beaucoup plus frustres. Donc c'est un petit peu vegan contre viandard, vous voyez. Hein, c'est d'un côté les adeptes de l'éducation positive, de l'autre d'une éducation beaucoup plus rigoureuse, voire brutale. Et de ces oppositions, mais nées une tension de plus en plus prégnante qui débouchera dans la dernière demi-heure sur un déclenchement de violence absolument terrible. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié. D'autant que le film évite les poncifs habituels du genre. Il n'y a pas de rebondissement grotesque avec le type qui n'est pas vraiment mort à la fin. Le traître qu'on est censé ne pas découvrir avoir vu venir. Il n'y a pas de surenchère. Bref, c'est un film bien tenu, très efficace et même pas trop long. Pourtant, le film fait 1h50 et c'est un peu long pour un film de genre. Mais bon, c'est vraiment pour moi le film de la semaine. Speak No Evil. Ce que n'est pas Jour de colère. Jour de colère, c'est un film qui est proposé uniquement au Méga CGR. Et Jour de colère, c'est un film réalisé par Jean-Luc Herbulot, réalisateur, monteur et producteur scénariste aussi, né en 83. Il a à son actif un certain nombre de courts-métrages. Et puis en 2014, Dealer, un film sorti en VOD. Dealer comme le gars qui vend de la drogue, hein, pas. Voilà, hein, d'accord. Et 2021, Saloum. Et puis là aussi, à son actif, des épisodes de série. Allez, Pierre, dis-nous en plus sur Jour de colère avec Joestar.
Ouais, c'est pas ma tasse de thé, lui.
Non, ben, je vais comprendre, oui.
Alors, durée 1h24, et encore avertissement, film interdit au moins de 12 ans.
C'est justifié.
Avec donc Joestar, Asia Argento et Joachim Fossi. Le synopsis, Franck est un tueur sur le déclin, avec un contrat et un plan de fuite trahissant son employeur, et s'échappant avec la femme qu'il aime. Mais Franck va croiser le chemin de Virgile, un sociopathe qui décide de l'emmener au fond du gouffre. La revue de presse, Le Parisien avec Michel Valentin. Si ça a le mérite de montrer la lente descente aux enfers de Franck, cette succession lasse au bout d'un moment. Dommage, car tout le reste reste très bien filmé. Ouest France, un thriller fantastique palpitant jusque dans sa dernière ligne droite. Télérama avec Johan Haddad, Jean-Luc Herbulot, réalisateur abonné aux productions à petit budget, signe un thriller à la frontière de la série B, dans lequel Joestar singe maladroitement le Keanu Reeves de John Wick et Asia Argento surjoue chaque situation à l'extrême. Ce décalage parvient cependant à créer quelques étincelles. Et enfin, Le Monde, le goût de la complication et celui du glauque s'ajoute ici à la tentation d'imposer un ton, une atmosphère qui écrase, plutôt qu'ils ne mettent en valeur des personnages, lesquels, de ce fait, ont toutes les chances de laisser indifférents.
Tout à fait d'accord, et la dernière critique. Jour de colère, c'est proposé par le Méga CGR. C'est un polar, matiné d'un soupçon de fantastique. C'est particulièrement confus. Franck, donc, c'est un tueur à gages. Il décide de se ranger et s'enfuit avec sa compagne, qui a piqué le magot de leur employeur. Bon, ben, ça ne lui plaît pas, l'employeur, bien sûr. Et donc, dans sa fuite, Franck rencontre un mystérieux tueur en série qui l'entraîne vers l'abîme, comme il est dit dans le synopsis. Dire qu'on ne comprend pas grand-chose à cette histoire ultra-violente est un doux euphémisme, mais je ne suis pas sûr que ce soit le souci principal du réalisateur, qui cherche surtout les effets de style à donner à son polar, pour créer une atmosphère nocturne, poissarde, comme on dit, plutôt qu'à le rendre intelligible. Joestar assure avec sa gueule ravinée, mais c'est tout ce qu'on retiendra de ce film sombre et violent. Bref, un exercice de style au service de pas grand-chose. Là non plus, c'est pas vraiment un film que je recommande, et il fait 1h25. Voilà, Billy le hamster cowboy, c'est le dernier film de la semaine. C'est proposé, là aussi, uniquement au Méga CGR. C'est un film d'animation, 1h07. Ils sont deux à l'avoir co-réalisé, Antoine Rota et Kaz Murel. C'est leur premier long-métrage. Et c'est l'histoire de Billy, un hamster extraordinaire. C'est un hamster cowboy, du moins, il rêve de le devenir. Pour commencer, il faut un vrai chapeau de cowboy et deux amis, ES intrépides, Suzy et Jean-Claude. Ça y est, les voilà partis à l'aventure, que ce soit sur la piste d'un trésor perdu ou la recherche du plus bel arbre du Far West. Au fil de ces rencontres, ce petit cowboy au grand cœur, va découvrir que c'est en volant au secours des autres que l'on devient un vrai héros. Préparez-vous, car avec Billy, chaque jour réserve une nouvelle aventure palpitante. Eh bien, la presse a apprécié ceux qui ont été voir. C'est le cas de Renaud Baronian dans Le Parisien. Autant de petites épopées vécues par des enfants animaux et morcelées en court épisode dans ce film d'animation français très mignon et tout doux, destiné aux plus jeunes et dont chaque partie se conclut par un barbecue nocturne et une formidable chanson. Leurs parents ne s'ennuieront pas et rigoleront bien avec eux tant le film est réussi, le tout décliné dans un graphisme très simple, en 3D, au joli ton pastel. Épatant, conclut Renaud Baronian. Xavier Harper dans l'Obs, coiffé d'un chapeau vert, Billy est un petit hamster qui rêve de devenir ranger. Flanqué d'un lombric joyeux et d'une fouine maligne, il ne cesse de partir à l'aventure. Star des programmes pour enfants de France Télévisions, Billy se lance à l'assaut, jeu de mots, L-A-2-S-O, du grand écran. Savoureux, conclut Xavier Le Herpeur. Et Caroline Bess dans Télérama déclare que c'est une série de petits dessins animés colorés et bondissants, fidèles à l'esprit des livres. Bien entendu, nous ne sommes pas allés voir ce film-là, mais les critiques ont l'air d'avoir apprécié. Donc, si vous avez des enfants...
C'est Omega, c'est ça ?
3 ans, oui, c'est uniquement Omega. Oui. 1h07. Ah, peut-être qu'il y a une copie au cinéaste, mais je n'ai pas fait attention parce que je n'ai pas la feuille sous les yeux. Mm-hmm. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a certaines séances au Méga CGR. Voilà. Eh bien, on a fait tous les films. Avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, on va vous passer du Dalida. Oui, dans Dalida, on entend « Laissez-moi danser » dans le film « Les Barbares ». Et puis, cette chanson « Laissez-moi danser », on l'a beaucoup entendue cet été au cours des Jeux Olympiques. Elle faisait partie de la setlist des titres qui sont passés très fréquemment sur les différents lieux de compétition. Voilà. « Laissez-moi danser », Dalida, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue.
Laissez-moi danser, et c'est un titre que l'on entend dans le film Les Barbares. C'est un titre interprété par Dalida. La semaine prochaine, on va commencer par les avant-premières. La semaine des avant-premières continue au Pâté Quinconce. Tous les jours, à 20h, un film, et même dimanche, il y en aura un à 18h. C'est un tarif de 8 euros, donc il faut en profiter, parce que c'est pas souvent qu'on a des tarifs comme ça au Pâté Quinconce. Ce soir, à vendredi, donc si vous nous écoutez en direct, Challenger, avec Alban Ivanov, qui à propos, l'équipe de Challenger, mais pas Ivan Ivanov, viendront présenter le film au Méga CGR mardi prochain à 20h15. Donc il y a le réalisateur, Varante Soudjian, et l'actrice principale. Donc il est prudent de réserver, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde pour les avant-premières au Méga CGR. Et donc là, c'est mardi soir en présence d'une actrice principale et du réalisateur. Mais sinon, c'est ce soir, Challenger, au Pâté Quinconce. Demain, au Pâté Quinconce, en fanfare, un film avec Pierre Lotin et Benjamin Laverne, ça y est, je cherchais le prénom, Benjamin Laverne. Dimanche après-midi à 14h pour les enfants, Angelo dans la forêt mystérieuse, et à 18h, Trois amis, un film de filles. Lundi 23, Prodigieuse, et mardi 24, Emmanuel, remake d'Emmanuel, qui sort d'ailleurs le 25, Emmanuel, le film d'Audrey Diwan, une version féministe, nous dit-on, de l'Emmanuel de Just Jekin. Alors la semaine prochaine, sortiront également L'Heureuse Élue, une comédie de Franck Belloc avec Camille Lelouch et Michel Larocque. Mégalopolis de Francis Ford Coppola, film très controversé au Festival de Cannes, qui avait recueilli des avis très partagés. Le film Gaël Morel, Vivre, Mourir, Renaître, sera aussi proposé aux cinéastes, tout comme d'ailleurs Emmanuel et Mégalopolis. Vietnam, ça sera au cinéaste. Là, je pense que ça sera pour Pierre.
Ah oui,
le film fait 2h09. Et puis, il y aura un film, je pense, islandais, avec un nom pareil, Gudmundur Arnar Gudmundsson. Ça paraît bien islandais, ça s'appelle Les Belles Créatures. Et sinon, deux films de genre. Week-end à Taipei, un film d'action. Ça a beau se passer à Taipei, je ne suis pas certain que Pierre ira voir.
Non, c'est assez violent. Hein.
Oui. Et Moverland, un film d'Alexandre Aja, ça c'est un film d'horreur avec Ali Berry. Cette semaine, Pierre, t'as du mal à recommander quelque chose, hein ?
Éviter à tout prix Ma vie, ma gueule, on est d'accord.
Ouais.
Alors bon, sous réserve Les Barbares, éventuellement, bon. Mais sans plus. Hein.
Je pense que le film à voir cette semaine, c'est Les Graines du Figuier Sauvage.
Oui, sûrement. Oui.
Donc voilà, hein. Donc nous, Speak No Evil, j'ai quand même beaucoup aimé moi, Speak No Evil. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans, dans Clap. Voilà,
au revoir.